J'ai déjà eu des éléments de réponse, mais je pose quand même la question. Est-ce que le dialogue est toujours possible en faisant l'hypothèse que les deux personnes ont conscience des recommandations, sont dans l'attitude du dialogue, et en reprenant cette image de l'éléphant et du citron. Donc, radicalement différent, c'est pas diamétralement opposé. Donc, on a vu que radicalement différent, ça ouvrait au dialogue, un dialogue riche. Est-ce qu'il y a quand même pas des situations où on est diamétralement opposé et auquel cas le dialogue n'est pas possible?
Oui, ça c'est une très bonne remarque parce que derrière cela, j'entends un peu plus fort, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la raison pour laquelle on dialogue, c'est pour arriver que tout le monde se comprend et que quelque part tout le monde voit que les choses ne sont pas aussi différentes qu'ils ont l'air. Et donc on va dialoguer pour arriver là, et quand on voit qu'on ne peut pas faire ça, le dialogue a. Je dis que les choses sont radicalement différentes. Et c'est précisément à cause de cette différence radicale que ça m'oblige de repenser ce que je crois, ce que je pense. Et c'est dans ce processus de repenser que je vais affiner ma propre foi, approfondir cette foi. Et l'autre qui va faire la même chose, mais le but n'est pas d'arriver à une foi que nous partageons. Parce qu'une fois qu'on partage le même, je ne crois même pas que ça serait souhaitable qu'il y ait une seule religion dans le monde. Ça, à mon avis, ça serait très pauvre. Ça serait un nivellement par le bas de toutes les traditions pour arriver à quelque chose sur lequel tout le monde peut être. Ça serait vraiment. Ça, c'est des réactions que ça ne suit pas que c'est ça que vous pensez.
Je comprends l'intérêt du dialogue quand on est radicalement différent et la richesse du dialogue. Quelquefois, on se trouve dans des situations où on est vis-à-vis de personnes, on a de comportements qui sont radicalement opposés, peut-être à notre système de valeurs. Là, peut-être ça peut se dire en termes de bien, mal, de choses qui nous paraissent bonnes et de choses auxquelles on est confronté qui nous paraissent mauvaises. Dans ces situations, le dialogue, un vrai dialogue, est-il possible? Ça rejoint un peu la question de dire, est-ce qu'il faut avoir des points communs ou des valeurs communes pour entrer véritablement en dialogue si on est dans ce radicalement opposé?
Oui, je vais vous citer, parce que c'est l'année de le faire, si jamais il y aura, c'est Albert Camus. Vous voyez, il a parlé sur le dialogue, aux Dominicains en plus. Et ce qu'il dit est très important. Et ça, moi je pense très proche de ce qu'il dit. Il dit ceci: je n'essaierai pas de modifier rien de ce que je pense, ni rien de ce que vous pensez, pour autant que je puisse en juger, afin d'obtenir une conciliation qui nous serait agréable à tous. Au contraire, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le monde a besoin de vrais dialogues, que le contraire de dialogue est aussi bien le mensonge que le silence, et qu'il n'y a donc que de dialogue possible contre des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. Donc, quand je suis dans une situation que quelqu'un a une idée de ce qu'est l'homme qui est vraiment opposé, même radicalement, de ce que je pense de la personne humaine, je ne vais pas reculer. Je reste sur ça. Mais je vais peut-être repenser quand même ma manière d'envisager ce qu'est la personne, mais ça ne serait pas pour obtenir, comme dit Camus, ça ne serait pas afin d'obtenir une conciliation qui serait agréable à tous. C'est simplement dans la dynamique de dialogue. Oui, je suis avec les Chinois. Malgré tout, il y a beaucoup de simplifications ici en Occident de ce qui se passe en Chine, même entre la Chine et le Tibet. Tout est joué. Je dis, même quand je suis radicalement dans une situation radicalement différente, je fais toujours l'effort de mieux comprendre pourquoi ils pensent comme ça? Parce qu'il y a peut-être dans une situation où je suis opposé, il y a peut-être quelque chose qui manque chez moi. Je vous donne l'exemple très concret. On dit que nous avons le droit universel de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais c'est nous qui disons que c'est universel. Et on n'aime pas ça comme les Chinois et les Africains d'ailleurs, ils disent la même chose parce qu'ils ont inventé leur propre Déclaration des droits universels des hommes et des peuples. Ouais. Quand les Chinois disent non, nous ne pouvons pas accepter ça, on monte dans notre grand cheval en disant qu'ils ont tort de penser ça. Ils ne sont pas dans le coup. Ils sont, au lieu d'écouter pour voir ce qu'ils veulent dire, peut-être qu'ils ont quelque chose dans tout cela de positif qui pouvait nous interroger et pouvait nous aider à approfondir cette déclaration pour que ça soit vraiment universel et pas l'Occident imposé un peu. Et il y a des choses, parce que les Chinois, certes, c'est manipulé par le gouvernement de tout ce qu'on veut, mais dans les grandes traditions chinoises, une des choses fondamentales, c'est l'harmonie qui fait partie de vivre ensemble quand même. C'est vrai, il met un tel accent sur l'harmonie que parfois les droits de l'individu, et ils sont très prêts à le faire, les droits de l'individu sont bafoués. Mais quelquefois, nous mettons un accent tellement sur les droits de l'individu que l'harmonie disparaît. Et peut-être, dans un dialogue, sans nier fondamentalement, on peut rajouter quelque chose qui peut le rendre un peu plus vivable. Pour nous aussi, je donne l'exemple. Quand j'étais au Japon, j'ai enseigné dans une grande école qui allait de l'école maternelle à l'université. Et j'avais des, pas moi, mais j'ai vu des enfants de 4 ans traverser la ville de Tokyo pendant 1h30 pour venir à l'école maternelle tous les matins, pour revenir chez eux tous les soirs. Et ils sont venus seuls. Vous imaginez, envoyer un enfant de 4 ans, 1h30 à traverser Paris, aller dans les banlieues, etc., pour aller, et il revient tout seul, il n'y a aucun parent qui le ferait. Parce qu'il sait ce que risque cet enfant. Et au Japon, le risque était zéro. Pourquoi? Parce que toute la société japonaise va protéger cet enfant dès qu'il part de sa maison et jusqu'à l'école, et le contraire. Ça, c'est pas le christianisme, ça, c'est le confucianisme qui fait ça. Maintenant, on peut dire que c'est mauvais. Imagine peut-être que c'est mauvais, je ne sais pas. Et c'est beaucoup plus facile à élever un enfant là-dedans. Mais ouais, donc, il y a un dialogue qui doit se faire sans savoir qu'on a tort ou on a raison. Ça va, est-ce que ça, c'est plus juste? Merci de votre attention. Bah, vous avez quelque chose à dire, non?
Avant que vous partiez, nous vous invitons tous à venir boire un verre et autour d'un apéritif à Notre-Dame-des-Pins. Donc, c'est l'église qui est juste en face. Ça nous donnera l'occasion de poursuivre le dialogue avec vous. Voilà.
Merci. Merci encore à Denis. Merci à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à Denis pour cet apport et que nous, comme il a dit, que nous soyons ensemble des êtres de dialogue. Et sinon, je voulais juste vous dire aussi que cette semaine, mardi à 22h15, pour ceux que ça intéresse, il y a une très bonne émission sur toute l'histoire entre les Juifs et les musulmans. Il y a 3-4 émissions sur 2 semaines. Alors pour ceux qui veulent, à Notre-Dame-des-Pins maintenant, la salle, on continue à poser les questions pour ceux qui veulent. Et à continuer le dialogue. Denis est très heureux de rester avec nous, et on est heureux qu'il reste avec nous pour ça. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et dites aussi à tous ceux qui ne sont pas venus, qu'ils ont loupé quelque chose, et vraiment, et aussi vous regardez sur le site internet Vivre Ensemble à Cannes, toute la conférence sera retransmise sur le site internet Vivre Ensemble à Cannes. Merci.